C'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les religions de la préhistoire, voici un concept des plus anachroniques, puisque rien ne laisse supposer qu'avant le déluge, les hommes du Paléolithique aient eu quelque accès à des préoccupations d'ordre métaphysique. Les religions de la préhistoire sont pourtant le titre d'un ouvrage capital paru en 1964 sous la plume d'un paléoanthropologue, André Leroy-Gourhan, qui mit fin à toute une série d'approches plus ou moins heureuses sur le sujet. Il faut dire que, loin de ce que peuvent penser les historiens des religions, les données matérielles issues de la lointaine préhistoire incitent à la prudence. Après plus de 50 ans de silence, un préhistorien ouvre à nouveau le dossier de cette pensée religieuse durant la préhistoire. Marcelotte, bonsoir.
Bonsoir.
Préhistorien, Marcelotte, vous êtes professeur à l'Université de Liège. Marcelotte, il n'existe pas de religion sans Dieu. Donc, l'homme du Paléolithique aurait pu avoir un Dieu.
Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'on distingue, du point de vue sémantique tout simplement, religion, de métaphysique ou de mythologie, par la présence de Dieu. Et il faut expliquer tout de suite ce que c'est qu'un Dieu. C'est-à-dire que ce sont des forces naturelles qui ont l'image de l'homme, qui agissent comme les hommes. Et ça, ça apparaît de manière très significative uniquement au néolithique. Lorsque l'homme s'est aventuré à contrôler les forces de la nature, animal ou végétal, et donc il lui a donné cette force parce qu'il avait l'intention, l'ambition de dominer ses forces. Il a considéré que ce qui régissait ses forces sans lui avait l'image de l'homme également. Donc on parle de Dieu, dans ce sens strict là, seulement dans des contextes de néolithique, c'est-à-dire là où l'homme cherche à contrôler les autres formes de vie que la sienne. Mais ceci dit, il faut bien voir que le terme religieux, dans cette acception là, apparaît très tardivement, apparaît à la Renaissance, là où, dans les sociétés philosophiques de l'époque, il n'existait pas de société sans religion, c'est-à-dire sans Dieu, sans que des religions aient concerné la notion de Dieu. Bien sûr, on ne connaissait pas, ou du moins on ne voulait pas savoir ce qui se passait dans les autres civilisations que celles qui produisaient le néolithique, les biens matériels, qui régissaient à l'époque les sociétés occidentales. Donc c'est un peu un accident de l'histoire relativement récente, que d'associer religion à Dieu. Mais enfin, l'acception est faite, c'est comme ça dans tous les dictionnaires, les encyclopédies, religion égale pensée métaphysique avec une intervention divine, donc quelque chose qui ressemble à l'action humaine. Mais toutes les autres populations du monde, depuis les origines et partout sur la Terre, vivent bien entendu avec un système de valeurs qui justifie leur propre mode de vie. Et ce système-là est ce qu'on appelle une métaphysique et c'est régi par un système mythologique tout simplement.
Donc, le concept de religion est assez récent dans l'histoire de l'homme, et de par le monde, nombre de groupes humains ne possèdent pas cette personnalisation de l'homme, cette déification, pourrait-on dire, mais plutôt des mythologies qui sont là pour raconter des récits fondateurs, c'est ça? Peut-être expliquer le passé et justifier le présent?
Oui, la mythologie, c'est une manière d'expliquer comment l'homme est là et pourquoi il est là et surtout pourquoi il fonctionne de telle ou telle manière. C'est une manière de justifier le système de valeurs tel qu'il est utilisé dans telle société. Bien souvent, la mythologie, bon, ce n'est pas moi qui parle, ce sont les spécialistes de la mythologie. C'est-à-dire que la mythologie, qui est totalement universelle, elle, par opposition à la religion, explique ce qui se passe un peu comme un cône. Le cône inférieur, c'est celui qui justifie toutes les activités sociales, toutes les pensées. Alors que ce cône se rejoint vers un sommet et s'ouvre vers un deuxième cône qui, lui, inclut le fonctionnement mythique. Et ces deux cônes, qui fonctionnent un peu comme un diabolo, deux cônes opposés par la pointe, se justifient mutuellement. Toutes les activités sociales sont en quelque sorte le miroir de la justification dans laquelle la mythologie fonctionne. Ce sont deux choses en parallèle. Donc, dans les sociétés humaines, il n'y a pas une distinction entre ce qui est fait sur la Terre et ce qui est fait dans la pensée cosmique. C'est un équivalent. Et ça, ce système structurellement identique dans toutes les populations, qu'elles soient chasseuses ou productrices. Il y a une équivalence entre les deux. Il n'existe pas dans la conscience humaine quelque chose qui serait fait de manière aléatoire. Nous travaillons toujours par rapport à un système de valeurs qui nous dépasse, dans lesquelles se situent des vérités avec un grand V majuscule, c'est-à-dire des choses qui entrent dans le domaine du sacré, qui sont vraies, et qui sont intangibles, qui ne bougent pas, qui ne changent pas. Et notre comportement à nous se fait toujours par référence à ce système de valeurs qui nous est supérieur et que nous plaçons dans le domaine du sacré, quelles que soient les sociétés dans lesquelles nous plaçons notre investigation.
Ces mythologies permettent notamment la cohésion sociale, de consolider la solidarité collective.
C'est ça, ça a une valeur donc coercitive, dans le sens où il faut garder, préserver ces systèmes de valeurs en même temps. Et tout de suite, on voit qu'elles ont une valeur éthique. Elles vont dire, voilà ce qui est bien et ce qui est mal. Bien entendu, on voit bien que ce système est élastique. C'est-à-dire que dans la mesure où nous ne sommes pas dans cette telle société que nous étudions, mais que nous le voyons de l'extérieur, on voit bien que ce système est toujours fonctionne de la même manière. Mais dès qu'on s'en éloigne, dès qu'on en sort, on voit que ce n'est que un système de valeurs. Et il est fondamental pour ceux qui y vivent, mais il est intéressant pour nous qui l'observons de l'extérieur, parce que nous permettons de voir qu'il y a toujours une structure dans ce genre d'équilibre, qu'elles sont à peu près toujours les mêmes, et surtout que si on prolonge le raisonnement, ça nous pousse à considérer que nous sommes nous-mêmes dans un système de valeurs qui nous autodétermine sans que nous en rendions compte, puisque nous sommes dedans. Ces réflexions philosophiques portées sur l'extérieur peut nous amener à considérer quelles sont les déterminations dont nous sommes victimes inconsciemment aujourd'hui y compris.
Marcelotte, la notion de religion s'applique surtout donc à des sociétés de production, c'est-à-dire dans des sociétés qui assument leur propre destin.
Oui, c'est-à-dire qui ont cette audace de défier la nature et de prendre la place, c'est un peu le mythe de Prométhée, hein, en même temps que tous les mythes de la mythologie chrétienne et juive qui mettent en avant la volonté humaine par opposition au mouvement naturel des choses. À mes yeux, elles sont fatales, ces tentatives-là, à court terme. En même temps, on peut voir que toutes les autres formes de société qui, elles, sont en harmonie avec la nature, peuvent subsister parallèlement à celle-ci. Il y a donc à la fois un mouvement éthique, voilà comment les choses doivent fonctionner, et un mouvement très audacieux qui est de remettre en cause cet équilibre-là, qui est tout de même dangereux, mais qui est peut-être propre à l'évolution de la pensée. Car ces pensées évoluent exactement comme l'univers évolue, comme la vie évolue. On voit que la pensée évolue aussi, évolue peut-être pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas elle se transforme. De telle sorte que sur le plan moral aujourd'hui, quelles que soient les valeurs des écologistes aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de l'histoire des pensées. La pensée se transforme de telle manière qu'on ne peut pas faire abstraction de toute son aventure, depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas question de revenir en arrière. La pensée possède sa propre justification par sa propre histoire. Elle aboutit à notre situation actuelle. On peut éventuellement la modifier, mais en tous les cas, on ne peut pas faire abstraction de la situation spirituelle dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui.
Avec le néolithique, l'homme maîtrise la nature. Nous voici d'ailleurs, beaucoup d'archéologues le pensent, nous voici dans l'anthropocène. Et désormais, l'homme égal des forces naturelles donne à ses représentations sa propre image.
Oui, donc c'est quand même depuis une dizaine de milliers d'années, on a parlé de Göbekli Tepe par exemple, dans l'est de l'Anatolie, qui fait 10 000 ans là. Bien sûr, là, le fait que l'on donne aux forces naturelles sa propre image est un début de la fin. Mais enfin, on le voit apparaître un peu partout, ce processus-là, hein, chaque fois aux mêmes situations. C'est pas aux mêmes dates, mais en Chine ou en Amérique centrale ou même en Afrique subsaharienne, on voit ce processus s'enclencher en même temps que l'homme devient sédentaire et devient agriculteur. Mais partout, on voit cette tendance qui est peut-être fatale, peut-être perverse.
Revenons peut-être à Göbekli Tepe, qui est un site absolument exceptionnel, fouillé par un archéologue allemand, Schmidt, et qui, contre toute attente, a découvert un exceptionnel sanctuaire, vieux de 10-12 000 ans.
En même temps, avec le recul, on se dit ça fait sens, quoi. C'est-à-dire que nous avons des temples en pierre, donc ils sont définitivement marqués dans le paysage, ils sont sédentaires. Et ce sont des temples assez gigantesques. Mais nous sommes toujours dans une situation mésolithique, de peuple chasseur, sédentaire, mais prédateur, ce qui est un peu un paradoxe. Donc il y a une sédentarisation, j'insiste sur cet aspect-là, d'abord du temple, au sens étymologique qui est de templum, c'est-à-dire de découper, il découpe un espace sacré dans l'espace soit sauvage, soit dans l'espace domestique. Donc le temple est délimité. Il est délimité aussi de manière perpétuelle. Donc on a affaire à une tentative d'emprise sur l'espace et sur le temps. Et cette emprise est manifestée par des images très intéressantes, hein, en particulier les félidés, qui sont des animaux, entre parenthèses, qui ne seront jamais domestiqués, qui ne peuvent pas être domestiqués, ils n'ont jamais été en tous les cas. Donc comme si on en aurait déjà les animaux qui échappent à la domestication, qui est déjà en cours. On voit là une symbolique s'est manifestée.
Ce sont des bas-reliefs.
Oui, ce sont des bas-reliefs très impressionnants d'ailleurs. Il faut dire que ce sont des colonnes de pierre, hein, monolithiques, donc d'un seul tenant, avec un chapiteau sur lesquels les animaux sont sculptés en faible relief. C'est intéressant, parce qu'il faut bien voir Göbekli Tepe, qui est un tepe, donc une butte dans le paysage, avec une série, on en connaît quelques-uns qui ont été fouillés, quelques-uns de ces temps, mais en fait, il y en a une bonne dizaine qui ont repéré par photo aérienne, qu'on devine même sur le terrain. Donc c'était vraiment un lieu sacré. Sur la même butte, il y en a pas mal d'autres qui sont toujours sous terre. Et autre chose intéressante aussi, c'est qu'ils n'ont pas été comblés de manière accidentelle. Tous ces temples ont été comblés intentionnellement. Chaque pierre a été déposée là pour fermer, pour anéantir la force du temple. Comme si on avait, après avoir installé cette série de sanctuaires, on les aurait déplacés ailleurs. Il ne faut pas oublier que Jacques Cauvin, voilà, un préhistorien français, tout de même, on avait trouvé toute une série d'autres dans la région de Malatia. Donc il n'y a pas que ce sanctuaire-là, c'est vraiment un phénomène anthropologique et historique, puisqu'à partir de là, on peut considérer que l'ouest de l'Anatolie, donc pensons à Tchataluyuk par exemple, a été colonisé de la même manière, sur le plan symbolique et sur le plan religieux tout autant. Et puis à partir de là, peut-être, tout ce qui se passe dans les Balkans semble avoir connu son développement.
Marcelotte, nous sommes toujours dans le néolithique du point de vue de la religion, de l'image de l'homme.
Oui.
Ça court du néolithique jusqu'au XXIe siècle.
Oui, avec quelques épisodes particuliers tout de même à la création de la religion chrétienne. Bon, c'est intéressant parce que c'est toujours à peu près le même phénomène. On cherche toujours à conquérir davantage via les nouveaux dogmes. Et puis il y a un système de balancement. Quand on voit la religion chrétienne, par exemple, qu'on voit apparaître des génies comme saint François d'Assise ou saint Thomas d'Aquin, on voit bien qu'il y a un balancement entre ce qui est imposé par la règle et qui, elle, de caractère divin, donc intangible en principe. Et puis cette révolte des penseurs qui, eux, sont attachés à la foi. Il y a une opposition entre les deux. Et l'histoire des religions, occidentales ou orientales, suit toujours le même balancement. Quelque chose qui va vers la règle, qui est sacré, parce qu'elle est référentielle à un système de valeurs, et puis quelque chose qui la met en question au titre de valeur. Nous pouvons suivre cette évolution-là de manière continue à l'intérieur des religions.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Marcelotte, depuis le néolithique, peut-être un peu après, émerge une entité sociale particulière, les prêtres, de nouvelles pratiques, le sacrifice, et avec eux des processions et des défilés de fidèles.
Oui. On observe toute une série de composantes qui sont propres à toutes les religions. Et on voit apparaître ce qu'on appelle les délégations avec les néolithiques. Prenons un exemple tout simple, celui qui va fabriquer des poteries, donc le potier, celui qui va élever les moutons, ce sont des personnalités différentes à l'intérieur d'une société qui éclate en mosaïque comme ça. Eh bien, les fonctions religieuses sont également éclatées. On voit apparaître le temple, qui va donc se distinguer à l'intérieur de la cité, et les personnes qui seront responsables des activités liturgiques, qui seront donc les prêtres, qui seront intermédiaires entre la fonction sacrée incarnée par le temple et le reste de la population. Ils seront intermédiaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle les rituels qui vont donc renouveler la pensée religieuse, par exemple lors de baptême ou lors de mariage. C'est très intéressant parce que des fonctions biologiques sont ainsi rendue transcendante par leur signification apportée, leur signification symbolique par rapport à la religion, par rapport à la foi. Et donc les processions, les cérémonies collectives ont cette fonction-là également, puisque elles sont spectaculaires, tout le monde les voit, en même temps tout le monde y participe. Donc il y a une participation physique dans ce renouvellement. On vient voir le rituel qui est d'origine très ancien, certainement le changement des saisons, par exemple le renouvellement de la végétation, ou bien les naissances qui sont des cycles naturels, des cycles biologiques, sont investis d'une signification religieuse. Et c'est à ce moment-là que la religion prend toute sa force, puisqu'elle s'accroche sur des mouvements naturels qui sont irréversibles, qui sont réguliers, mais elle donne un sens différent. Hein, on voit le mégalithisme, par exemple, qui s'aligne sur les mouvements solaires.
Vers 5000 avant notre ère.
Par exemple, oui, et qui sont tellement monumentaux qu'on dirait qu'ils surgissent du paysage, comme s'ils étaient inscrits dans le paysage. Et pareil pour les mouvements du soleil ou de la lune, c'est comme si la religion faisait apparaître les mouvements du soleil et de la lune par le rituel, alors que, bon sûr, ils en dépendent, mais tout ça correspond à une pensée métaphysique globalisante qui justifie à la fois les mouvements naturels, les mouvements astronomiques et leur justification par la mythologie.
Le néolithique serait donc un laboratoire, non pas de l'invention de l'agriculture ou de l'élevage, encore moins de la pierre polie, mais de la religion.
Ah oui, pour moi, la pensée métaphysique, révolutionnaire sans doute, précède toute forme de modification économique ou technique que vous évoquez à l'instant. Je pense que tout ce que nous voyons en archéologie ne sont que des conséquences en aval et peut-être même lointaines par rapport aux modifications dans la pensée. Il y a d'abord une intention de capter les forces naturelles, par exemple par la sédentarisation, qui exige une modification économique radicale et qui en même temps provoque des augmentations démographiques en cascade et incontrôlables. Mais à partir du moment où on a défié les forces naturelles uniquement par une révolution métaphysique, alors il y a une série de modifications en aval qui, après quelques temps, entre guillemets, apparaissent sur le plan archéologique. Comme le polissage de la pierre, quoi. Il est évident que les populations chasseuses du paléolithique et nomades pouvaient parfaitement polir la pierre. Mais ce n'était pas intéressant pour eux parce que ça demande une sédentarisation. Ça demande des heures et des heures de travail. Pareil pour la poterie. Bien sûr qu'ils pouvaient faire de la poterie. Mais ce n'est pas intéressant dans les populations nomades puisque c'est lourd et c'est fragile, la poterie. Donc ils n'ont guère réalisé.
Jacques Covin avait cru percevoir quelque chose de la sorte au Moyen-Orient, notamment au travers des petits objets.
Ah oui, c'est fantastique. Je veux dire qu'on peut toujours discuter, bien entendu, de toutes ces théories. Elles sont séduisantes, mais au moins, elles ont mérite d'exister. Le fait qu'il y ait des objets et que ces objets soient petits permet de donner une forme à ce qui n'en avait pas. Prenons l'exemple de l'argile, qui est vraiment le cas le plus clair. L'argile qui est amorphe hein, prend tout à coup une forme lorsqu'on la modèle. Elle est donc individuelle puisqu'elle est fabriquée par un seul individu, mais qu'en plus, une fois cuite, cette forme, elle devient définitive par une sorte d'action magique de la physique, de la cuisson, sur un matériau géologique par ailleurs. Et de là, peut-être, enfin bon, moi je suis très intéressé par l'Ancien Testament parce qu'on voit apparaître tout à coup une analogie entre les données archéologiques et la notion d'argile dont Adam est fabriqué, et les premiers hommes vont disparaître en poussière, retourner à l'argile. Je pense qu'on a beaucoup de choses semblables. Prenons l'exemple aussi des tables de la loi qui montrent l'importance de l'écriture par opposition aux images. C'est un petit taureau là que Moïse a détruit en descendant du mont Sinaï. Le taureau, c'était l'image du style, sur le modèle paléolithique, c'était une image réelle qui correspondait comme par hasard au taureau de Lascaux, bon, à ces forces naturelles qui étaient maîtrisées par l'image. Tout d'un coup, on voit apparaître, non, c'est le verbe qui importe. Donc le verbe écrit qui importe. Et ça, on voit apparaître l'enclenchement d'une abstraction supplémentaire à l'image. C'est une abstraction qui est figée par l'écriture et qui donne un nouveau destin à l'humanité, du moins à celle qui la pratique.
Les théories de Jacques Covin avaient été quelque peu démantelées par un archéologue, un anthropologue plutôt, Jacques Testard. Par exemple, les déesses mères néolithiques étaient des sortes de bévues d'archéologues.
Je ne crois pas du tout. Je suis désolé parce que Jacques Testard vient de décéder. Donc je ne vais pas accabler, mais je n'ai pas été convaincu par ces théories. Je suis beaucoup plus proche de ce qu'a pensé au vin, pas seulement dans sa démarche, mais il reprend aussi des penseurs, faut pas les oublier, des penseurs allemands, l'école de Vienne, allemand du 19e siècle, l'école de Vienne début du 20e, où il donne un sens à l'évolution humaine. On en revient un peu à la théorie de Leroy Gourhan citée au début. Là. Leroy Gourhan mettait en cause non pas l'évolution de la pensée religieuse, attention, mais les méthodes qui étaient utilisées par les archéologues à cette époque-là. C'est peut-être vrai dans les excès qui avaient été commis dans la première moitié du 20e siècle, mais ce n'est quand même pas très justifié lorsqu'on considère l'ensemble de la pensée humaine, auquel justement les philosophes comme Kant ou comme Caserer au 20e siècle, bon, pas mal d'autres philosophes du 19e siècle, ont donné un sens à la pensée métaphysique en disant bon, l'homme a besoin de cela et l'homme s'est constitué toujours par une réponse métaphysique. Donc le fait que les archéologues ont exagéré la puissance des données matérielles, c'est une chose, mais le fait qu'on en reste là, ça ne me convient pas du tout. Comme vous l'avez annoncé, je réagis parce que toutes les populations humaines possèdent cette pensée métaphysique. On pourrait même dire que, un peu l'inverse de ce que le roi Gourhan a dit, puisque l'on sait, grâce à ces philosophes, grâce à ces historiens des religions, que toute population humaine possède cette pensée religieuse et métaphysique et mythologique. On pourrait dire l'inverse, c'est-à-dire que puisque l'on sait cela, on va aller chercher parmi les données archéologiques, les matériels, nous sommes d'accord, quelle est la signification de ces données par rapport à la métaphysique. On va donc pas faire comme au début du XXe siècle, essayer d'inférer une donnée religieuse à partir de la donnée matérielle. Je crois que ce serait aller trop loin. De ce point de vue-là, le roi Gourhan avait raison. Mais si on pose d'office qu'il y a une pensée métaphysique, nous devons établir cette relation entre cette pensée que l'on sait exister par ailleurs. Elle n'est pas n'importe laquelle, hein, bien entendu. Ce que pensait la métaphysique des Néandertaliens n'est pas la même que celle des hommes modernes en Europe, par exemple, hein, ou encore moins avec les néolithiques. Mais on sait qu'elle existe, on peut la percevoir par une série de structures. Ensuite, notre boulot d'archéologue, c'est d'établir la relation entre n'importe quel objet, fût-il très anodin, un outil ou une image, par rapport à une métaphysique que l'on sait par ailleurs devoir exister. C'est le boulot dans lequel je me suis engagé, de manière à ne pas mourir idiot, si j'ose dire. C'est-à-dire que notre travail d'archéologue, si on le prend vraiment sérieusement, est quand même de chercher du sens. Et je dirais que dans ma petite théorie personnelle, très humblement, nous devons, à chaque niveau d'élaboration des connaissances, établir un niveau équivalent de leur explication, tout en sachant bien, très humblement, qu'elles sont éphémères, ces explications, hein, mais les données aussi.
Le roi Gourhan, dans les religions de la préhistoire, évoquait l'arrivée d'extraterrestres dans une église. Que pouvait-il en comprendre ?
Là où on s'est souvent posé, parce qu'on a souvent discuté le soir au foot avec lui. Par exemple, si on prend le chemin de croix dans les églises, bien sûr, on ne va pas retrouver l'explication symbolique du chemin de croix, du Dieu fait homme qui est sacrifié comme ça, non. Mais ce que nous voyons, c'est une série d'images qui ne vont pas expliquer ce qui se passe dans le sacrifice de la messe devant ces images et par les fidèles. Mais on va tout de même retrouver une explication métaphysique de la condition humaine à travers ces images. On ne va pas retrouver peut-être la signification de la messe chrétienne, mais on va tout de même retrouver une explication qui va peut-être être plus pertinente que ce que les chrétiens eux-mêmes savaient devant ces images-là. Ils ne le disaient pas, ils ne savaient peut-être pas, mais nous pourrons le savoir à partir de leurs images. C'est comme ça que je cherche à interpréter l'art paléolithique, par exemple.
Pour approcher la pensée symbolique, il faut se pencher sur la plus spectaculaire des activités rituelles, bien sûr dans les temps anciens, ceux de la préhistoire, celle qui fut illustrée par les sépultures.
Oui, mais attention, les sépultures ne font qu'éclairer les aspects relatifs à la mort, mais illustrer donc cela par les vivants. C'est les vivants, qui, bien sûr, qui ont enseveli les défunts. Donc ce n'est qu'une relation particulière du vivant par rapport à leur mort, quoi. C'est intéressant, mais pour moi, la religion et la mythologie en général, même la philosophie, concernent surtout la vie et pas tellement la mort. La mort, bien sûr, c'est fatal, c'est inévitable, mais ce n'est pas très, très enrichissant. Par contre, s'il fallait étudier la conception métaphysique d'une religion paléolithique, je m'orienterais plutôt vers ce qu'ils ont fait en matière artistique, la mythologie telle qu'elle est illustrée par les peintures rupestres.
Justement, vers 40 000 ans, le monde du mythe explose tout d'un coup sous la forme d'images.
Oui, oui et non. Excusez-moi, mais on a toujours cette impression. Je suis convaincu, pour le dire autrement, que depuis toujours, l'homme a toujours vécu avec une mythologie. Pas n'importe laquelle, bien sûr, pas toujours la même. Mais que cette mythologie était, comme toutes les mythologies d'ailleurs, était exprimée par la tradition orale. Hein, par des systèmes de valeurs dont nous parlions tout à l'heure. Il n'y a pas de population qui vive sans cela. Ce qui est particulier avec le poétique supérieur, du moins dans cette partie-ci de l'Europe, c'est que cette mythologie, tout à coup, du statut oral qu'elle avait pendant des centaines de milliers d'années, elle devient figée par l'image. Et ça, c'est intéressant, parce que d'abord, c'est beau, il faut quand même bien le dire tel que ça, et d'autre part, ça reflète une certaine relation à l'abstrait. C'est une sorte d'ouverture vers l'abstraction. Ce qui était jusque-là invisible devient visible. Ce que nous voyons, c'est une partie de ce qui était pressenti par les paléolithiques dans le domaine invisible. C'est comme si ces mythes surgissaient sous la forme d'images. Mais ce n'est peut-être qu'une partie, bien entendu. On voit une partie de ce qui était imaginé dans le monde des rêves du paléolithique.
André Leroy-Gourhan l'écrivait. La certitude d'opération religieuse d'une charpente de croyance est matériellement acquise. Pour vous, il y a bien plus.
Ah oui, le fait de dire ça, c'est pas dire grand-chose. Le fait qu'il y ait une charpente, c'est évident. Le fait que ça existe, c'est également évident. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans le raffinement de la pensée paléolithique, y compris pour les néandertaliens, j'insiste. On voit des images animales chez les néandertaliens qui sont incarnées, par exemple, dans les bucranes, donc la partie sommitale d'un bovidé ou d'un bouquetin. On les voit qui sont transposées dans un contexte, d'un contexte naturel vers un contexte social. Là, déjà, ça fait image. Et lorsque l'on voit que ces agencements ne sont pas aléatoires, qu'ils sont toujours les mêmes, on perçoit une structure. Ce n'est pas simplement une charpente, bien sûr, ça existe. Mais on peut tout de même aller un peu plus loin, un peu plus riche aussi, pour voir que certaines espèces seulement qui sont investies de ce pouvoir. On voit par exemple les bovidés qui prennent une place énorme.
Le cheval.
Et on voit que ces animaux-là, en matière de métaphysique générale, portent une signification puissante. Le bovidé, c'est l'animal par excellence que l'homme va combattre à l'état sauvage ou à l'état domestique. Mais il le combat parce que c'est un concurrent. Dans la tauromachie, par exemple, toujours aujourd'hui. Le cheval, c'est un animal qui court vite, qui part de loin, qui revient des steppes, qui retourne. C'est aussi un défi par rapport aux aptitudes physiques de l'humanité. Il y a toujours cette relation entre ce qu'incarne l'individu et le statut symbolique que cet individu sauvage donc, va prendre dans la société dans laquelle son image a été récupérée.
Marcel Hott, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Philippe Mercher et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se consacrera à d'autres lieux, d'autres temps.